Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour et bienvenue à cette émission de Cinérama du 7 décembre. Bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
C'est un retour, puisque la semaine dernière tu étais bien dans Cinérama, effectivement.
Virtuellement.
Voilà, virtuellement. Alors, aujourd'hui c'est une grosse émission encore, mais plutôt d'ailleurs une émission de chronique. De quoi tu vas nous parler ?
Moi je vais parler de Harakiri, le nouveau film de Takeshi Miike, et je vais en profiter pour m'attarder un petit peu sur la carrière de ce réalisateur atypique. Il y aura un blind test Johnny Depp.
Oui, donc
par rapport à la sortie de Rome Express dont tu parleras. Et je finirai avec Footnote, le film israélien qui a été primé au Festival de Cannes.
Et donc, on rappelle les règles du blind test, on vous fait écouter des extraits et vous, chers auditeurs, eh bien, vous pouvez essayer de trouver le film dans lequel joue Johnny Depp. Donc moi, ce sera trois chroniques. Il y aura Americano de Mathieu Demy qui est sorti la semaine dernière. Il y aura Rome Express, donc avec Johnny Depp, de Bruce Robinson. Et puis, il y aura aussi une interview avec des réalisateurs de Languedoc-Roussillon qu'on a vu au Festafilm.
Voilà, oui, puisque pour clôturer le Festafilm, il y avait donc un panorama Languedoc-Roussillon et on a pu interviewer quelques-uns des réalisateurs.
Voilà, et cette séance a permis de remplir la salle du Rabelais. Mais on va commencer avec Carnage. C'était une avant-première qui s'est déroulée donc au cinéma Diagonal. C'était ce vendredi, il n'y avait pas grand monde finalement. Ça, j'ai été assez surpris quand même parce que c'est le dernier Roman Polanski. Alors, qu'est-ce qui se cache sous le vernis des bonnes convenances quand deux couples bourgeois s'expliquent autour d'une altercation ayant opposé leurs fils respectifs? L'un, Zachary, a fichu un coup de bâton à Ethan en plein parc de Times Square. Et voilà donc le moment de décrire ce qui s'est passé.
Suite à une altercation verbale, Zachary Kawan, âgé de 11 ans et armé d'un bâton...
Armé ?
Michael, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Muni, doté, muni d'un bâton, ça va ?
Muni, d'accord.
Muni d'un bâton. Ils sont gentils.
Ils sont gentils ?
Oui, très.
Oh ça oui, très très gentil. On sent bien une légère tension, mais rien d'alarmant au début. Mais plus les discussions avancent dans cet appartement new-yorkais confortable, plus les langues se délient. Et si les couples peuvent paraître relativement soudés, il en faut peu passer un cap pour qu'ils ne volent en éclats. Le coup de bâton des fistons renvoie leurs parents dans les cordes et il ne restera plus que des individus qui s'opposeront, s'allieront au gré des propos et des péripéties de cet après-midi qui aurait pu être tranquille.
Vous savez, je me posais la question et je sais que ça n'a aucune importance, mais... Est-ce qu'il vous a dit à quel propos ils se sont disputés parce que Ethan reste muet là-dessus ?
Ethan refusait que Zachary fasse partie de sa bande.
C'est quoi cette histoire ?
Et il l'a traité de cafteur.
Tu savais que Ethan avait une bande ?
Non ! Mais je suis ravi de le découvrir.
Pourquoi tu es ravi ?
Moi aussi j'en avais une, j'étais le leader.
Oui, moi aussi.
Et il fait quoi, le leader d'une bande ?
Tu sais, tu as 5 ou 6 gars qui te tournent autour, qui t'apprécient, qui sont prêts à se sacrifier pour toi. C'est comme dans Ivanhoe.
Exactement, oui, Ivanhoe.
Aujourd'hui, personne ne connaît Ivanhoe.
Ils doivent avoir un autre héros, genre Spider-Man, ou les savoir.
En tout cas, vous semblez en savoir plus que nous. On dirait que Zachary n'est pas resté aussi silencieux que vous le disiez. Et pourquoi Ethan l'a-t-il traité de cafteur ? Non, c'est idiot. C'est une question stupide. À quoi bon ? On s'en fiche.
Nous n'allons surtout pas tenter de dénouer ces querelles d'enfants.
Ce ne sont pas nos affaires.
Voilà.
En revanche, ce qui nous regarde, c'est ce malheureux incident. La violence, c'est notre affaire.
À l'époque, quand j'étais leader, j'avais battu une brute, Jimmy Leach. Un combat singulier, il était plus fort que moi.
Et qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça, Michael ?
Rien, rien du tout.
C'était pas un combat. Ces gamins ne se sont pas battus.
Je sais, je me rappelais quelque chose.
Ce n'est pas si différent.
Oh, excusez-moi, il me semble que c'est différent.
Très différent.
Il y a une grosse différence.
C'est quoi la différence ?
Eh bien, on avait décidé tous les deux de se battre.
Vous l'avez beaucoup amoché ?
Oui, un peu.
Bon, assez avec Jimmy Leach.
Voilà, hein, y a de la parlotte. Alors, adapté d'une pièce de Yasmina Reza intitulée « Le dieu du carnage », Polanski ne prenait pas grand risque à adapter cette pièce multiprimée, comme il ne prenait pas grand risque non plus avec le casting, puisqu'on retrouve Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz, et le seul qui n'est pas d'Oscar, John C. Reilly. Alors autant le dire, le film tient aussi beaucoup donc, à ce casting, chacun opère un glissement. Jodie Foster, concernée moralement au plus haut point par la baston des fistons, sans ses nerfs la lâcher. La douceur apparente de Kate Winslet ne tarde pas à nous laisser entrevoir une ombre de rage. Le mari de Jodie Foster, bonne patte, s'il semble suivre les recommandations morales de sa compagne, a pourtant quelques mauvais forfaits à se reprocher. Il n'y a guère que le personnage de Christoph Waltz, avocat américain dans toute sa splendeur, qui semble lui particulièrement agacé et surpris d'être enfermé dans ce huis clos à discuter d'une bagarre de gamins, d'autant qu'il doit résoudre une affaire autrement plus importante au téléphone et que tous les moyens sont bons, même les plus grossiers, pour ne pas manquer un appel. Un personnage tout en cynisme qui n'hésite pas à gratter où ça fait mal en oubliant les convenances. Le plus délicat, sans doute, pour les acteurs a été de tenir le rythme du huis clos, qui commence piano et qui finit sur les chapeaux de roue, mais l'exercice est réussi, on reste quasi exclusivement dans une seule pièce, le salon, et on n'en éprouve aucun ennui, d'autant que le film ménage quelques surprises. C'est sans doute une parenthèse hein, dans l'œuvre de Roman Polanski, comparé à son Rosemary's Baby, son pianiste ou The Ghostwriter, mais quand on regarde Carnage, l'exercice de style est plaisant. Et donc, ce film Carnage sort aujourd'hui sur les écrans et à peu près tous les écrans.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
On reste dans une ambiance de carnage, mais cette fois-ci au Japon. Alors, au XVIIe siècle, les samouraïs sont victimes de la paix régnant dans le pays. Privés de guerre et de devoirs à accomplir, ils deviennent pauvres et désœuvrés, comble du déshonneur. Poussés par la famine, certains se rendent chez les seigneurs voisins et demandent à se faire publiquement harakiri, suicide rituel qui consiste à s'ouvrir le ventre au sabre et à se vider de ses boyaux devant ses compagnons d'armes. Mais ces samouraïs espèrent en réalité être pris en pitié par le seigneur qui les mettra à son service ou leur donnera de l'argent. Lassé de ces mascarades, un seigneur décide un jour de donner une leçon particulièrement cruelle à un jeune samouraï venu demander son aide, sans se douter que cela provoquera l'engrenage de la vengeance. Harakiri, c'est le remake d'un film de Masaki Kobayashi sorti en 62 et c'est surtout le nouveau film de Takeshi Miike dans un genre très inattendu pour ce réalisateur atypique. Lui qui était connu pour son cinéma extravagant et son habitude à dynamiter les codes de genre semble ici avoir été victime d'une grave crise de classicisme. Avec un film de sabre épuré comme aurait pu le faire Kurosawa, Takeshi Miike délaisse la provocation pour traiter avec toute la froideur possible une brûlante histoire d'honneur et de revanche. Si vous avez l'habitude de regarder vos films en streaming tout en consultant votre page Facebook et en mangeant vos céréales, en bref, si vous êtes quelqu'un de 2011 pour qui tout va vite, vous aurez sans doute besoin d'un temps d'adaptation. Ça tombe bien, le film dure plus de 2 heures et croyez-moi, une fois plongé dans l'univers ralenti et raffiné du Japon médiéval, vous apprécierez le film à sa juste valeur. Véritable hommage aux traditions japonaises, le film étire le temps et l'action à l'infini par une mise en scène tout en beauté formelle. Les acteurs sont véritablement habités et leur jeu intense pallie fort bien au manque de dialogue, la scénographie s'occupant quant à elle de créer une chorégraphie décor assez fascinante. Une telle lenteur pourrait devenir lassante, mais le réalisateur ne tombe que rarement dans le piège de la contemplation. Et dans tous les cas, une mise en scène foutraque n'aurait sans doute pas retranscrit au mieux l'univers rigoureux des samouraïs. Cela peut surprendre de la part d'un réalisateur qui n'est jamais à court d'inspiration en termes de violence graphique. Je pense notamment à Audition, où l'on plantait joyeusement des aiguilles d'acupuncture dans des globes oculaires. Mais il est d'autant plus surprenant de constater que Miike excelle également dans la sobriété. Il n'a néanmoins pas totalement perdu ses bonnes habitudes, et si vous survivez aux 20 premières minutes passablement taciturnes, vous serez récompensé par une scène de harakiri assez sanglante et insoutenable avec bruitage d'intestin arraché en bonus si vous avez tenu jusqu'au bout. Alors Harakiri a été sélectionné pour la première fois à Cannes cette année. Pourtant Takeshi Miike n'en est pas à son coup d'essai. Bien qu'il soit venu au cinéma tardivement, à partir des années 90, le cinéaste japonais a réalisé en 20 ans une cinquantaine de films. Lorsque des Terrence Malick font un film tous les 7 ans, Takeshi Miike, lui, accouche de plusieurs œuvres par année, avec pour point d'orgue 2001 et 2002, au cours desquels il réalisera 14 films, ce qui équivaut quand même à environ un film tous les 2 mois. Bien que la plupart de ses œuvres appartiennent au V-cinéma, catégorie au Japon qui désigne les films sortant directement en DVD, il a réussi à se faire une place parmi les cinéastes asiatiques qui comptent, comme en témoigne son apparition dans le film Hostel de Eli Roth. Proche du cinéma populaire qu'il a expérimenté en travaillant beaucoup pour la télé à ses débuts, il a également appris les rudiments du 7e art avec les plus grands, puisque ses études de cinéma se sont faites sous la direction, entre autres, de Shoei Imamura, cinéaste palmé à Cannes pour L'Anguille. Il devient par ailleurs son assistant avant de se lancer dans la réalisation et d'obtenir son premier succès avec Les Affranchis de Shinjuku, un film policier qui le promeut découverte de l'année dans son pays. Le film de Yakuza va dans un premier temps devenir son genre de prédilection, avec notamment la trilogie des Dead or Alive. Mais il adaptera également bon nombre de mangas comme Cross Zero, Zebra Man et surtout Ichi the Killer qui dynamite joyeusement les codes du film de super-héros et les limites du bon goût. Sorti en 2001, Ichi the Killer marquera l'arrivée de Miike en Occident. Arrivée fracassante puisque les spectateurs du festival de Toronto assisteront à l'avant-première munis d'un sac à vomi remis par la production. Cette année sera déterminante pour le réalisateur qui réalisera des films dans des genres totalement différents, mais toujours teintés d'absurde et d'excès. Ainsi, l'on pourra découvrir entre deux films où volent les têtes coupées, La Mélodie du Malheur, une opérette gore et loufoque qui entend persuader le spectateur que même si les malheurs pleuvent, chanter résout tout.
なんでこんな死んだ奴らの後始末ばっかりしなきゃいけねえんだ
後にはしないんだやるしかない
お父さんやるんなら早くしないと
おいやる方向かよ
リチャード佐川です
お日様もニコニコ見つめてるさあ
ここは来てみなきゃ分かんないってほら何個だってこんな気持ちいいじゃないかああ
voilà, c'était la bande-annonce de La Mélodie du Malheur. Donc c'est une parodie, bien sûr, de La Mélodie du Bonheur, en forme d'hommage également à L'Auberge Rouge de Claude Autant Lara. Et c'est aussi surréaliste que maîtrisé. Toujours la même année, Takeshi Miike nous offre Visitor Q, un drame familial gentillet dans lequel un père couche avec sa fille, lycéenne et prostituée, pendant que le fils frappe sa mère accro aux antidépresseurs. Le film s'achève dans un tsunami de lait maternel, et le pire c'est que Miike parvient à nous faire croire que tout cela est parfaitement normal. Le réalisateur va également se faire une carrière dans le cinéma d'horreur, démarré en beauté avec Audition, qui deviendra l'un des films asiatiques cultes de la décennie.
Il fallait pas répondre au téléphone, c'est ça?
C'est ça, non, il d'accord, fallait mieux pas. Alors le mélange des genres, cher Miike, atteint ici son paroxysme avec une première partie très lente et romantique, propice à rendre la seconde d'autant plus cruelle lorsque l'histoire bascule dans l'onirisme glauque. Ses derniers films notables resteront dans le registre de l'angoisse, comme La Mort en ligne, Trois extrêmes, ou sa contribution à la série Les Maîtres de l'horreur qui regroupe les plus grands réalisateurs du genre, contribution qui sera jugée trop choquante pour être diffusée alors qu'il avait quand même comme concurrent les horrifiques Dario Argento ou John Carpenter. Passionné par la violence et le renversement des tabous, Takeshi Miike fait de ses films de véritables terrains d'expérimentation, aussi bien dans la recherche visuelle que dans la transgression. Même si ses films les plus connus sont aussi les plus trash, on oublie qu'à l'instar de son compatriote Takeshi Kitano, il est tout à fait capable de réaliser des films contemplatifs et poétiques, tels que The Bird People in China. Impossible à fixer dans une case, n'en déplaise à notre chère politique de l'auteur, Takeshi Miike poursuit de plus belle sa carrière boulimique et parvient même, avec son nouveau film Harakiri, à devenir enfin sobre, sérieux et nominé à la Palme d'Or. Que l'on se rassure, malgré le virage radical vers le formalisme amorcé avec sa nouvelle création, Miike n'est pas encore devenu un ersatz ennuyeux de Ozu, puisqu'il a déjà 4 projets prêts à sortir pour 2012, d'après des scénarios toujours aussi déjantés, dont son prochain film au titre très métaphysique Ninja Kid.
37人の忍たまたちと総勢80名の豪華キャストが200%の勇気と元気を日本中に届けます。私はいつだって忍たまの味方だよ。わしも応援させてもらうぞ。頭が重い。負けるなよ。
泣くな。
忍とは。
Ça donne envie. Voilà.
Bah oui, oui. Ben merci beaucoup, Marine. Alors, on va faire une petite pause musicale. On aurait pu choisir, parce que ça, c'est ce genre de musique japonaise, ça me faisait penser à celle de Ponyo sur la falaise, le film de Miyazaki. Chanson assez enfantine. Mais finalement, on va plutôt écouter Nicolas Paviani, c'est Bambi il Telefono, extrait de Journal Intime, film de Nanni Moretti. Voilà, c'est extrait de Journal Intime. Alors, dans cette BO, il y avait aussi Raleigh de Paolo Conte et plein d'autres choses qu'on pourra écouter dans les futures émissions de Cinérama.
Cinérama sur Divergence FM.
13 ans après Las Vegas Parano de Terry Gilliam avec Johnny Depp et Benicio del Toro, voici un autre film sur les expériences limites, toujours adapté de l'œuvre de Hunter S. Thompson, Rome Express. Le titre ne laisse aucune ambiguïté sur l'alcool qui y est bu en quantité dans le film, quoique ça serait mentir de dire qu'il n'y a que du rhum. On y boit aussi de la bière, histoire de redescendre un peu. Mais ce qui est certain, c'est qu'on y boit beaucoup, donc à peu près comme on y fume. Bienvenue dans l'insouciance des années 60. Quoique Porto Rico, où l'action se déroule, si on boit et fume sans relâche, on sent aussi deux mondes qui s'opposent. Les Américains, plutôt riches, et les autochtones, plutôt prompts à défiler dans la rue. Le décor est donc paradisiaque, c'est une île perdue dans les Caraïbes avec tout ce qu'il faut de palmiers et de sable blanc, mais contrasté car les portoricains sont sous la dépendance américaine. Le film ne s'apesantit pas sur la situation géopolitique, non, car Rome Express est avant tout une comédie mêlée à un film d'aventure, le tout en état d'ébriété. C'est l'histoire de Paul Kemp qui, lassé de sa vie new-yorkaise, s'expatrie sur l'île de Porto Rico et se fait engager par un petit journal local, le San Juan Star, et où il s'occupe d'une rubrique absolument insignifiante. Lui qui rêvait de grand journalisme s'est plutôt raté. Quand on arrive dans ce journal, on se demande bien comment ils peuvent sortir les infos, dirigés par un patron dépassé qui planque sa calvitie sous une moumoute. Le San Juan Star vivote et on le verra, Paul Kemp, interprété par Johnny Depp, aura beaucoup de temps pour ses aventures.
Porto Rico. Je suis venu ici pour trouver une histoire.
Ça s'appelle du journalisme.
Votre CV, hein? Ne soyez pas si nerveux. Je ne vous paierai pas l'hôtel si je ne vous avais pas déjà engagé.
J'y ai trouvé le plus étrange des paradis terrestres.
Ça y est, t'as trouvé?
Un endroit où vos secrets s'affolent.
Ne fixe pas sa moumoute.
Et le vaudou opère sa magie. Si la boisson ne vous tue pas...
Comment peut-on siffler 161 mignonnettes?
Elles n'étaient pas gratuites? Les femmes s'en chargeront.
J'ai cru que vous étiez une sirène.
Je viens du Connecticut.
T'approches pas d'elle, c'est la fiancée de Sanderson. Elle bronze toujours toute nue.
C'est une vraie beauté.
Je ne faisais que regarder le bateau.
Oui, on est tous montés dessus. C'est une merveilleuse expérience.
Ça peut sembler être une folle hallucination. Mais tout est réel. Enfin, je crois.
Cet endroit regorge de fric, Paul. Et ce sont les gens comme moi qui savent se servir.
Ce n'est pas un peu illégal?
Voilà une remarque tout à fait déplacée.
On va clouer ce salopard sur sa porte. J'ai un scoop pour toi. Je vais l'avoir.
T'es malade?
Je parie que tu vas crier avant moi.
Aucun alcool ne peut atteindre 470 degrés.
Ce qu'on fait ne regarde que nous.
Il n'y a plus de siège avant.
Tu viens d'avoir une brillante idée.
Elle est naturelle.
Les ingrédients sont là, il rencontre une femme fatale, épouse d'un homme d'affaires véreux qui avec quelques acolytes rêve de transformer une île en paradis pour touristes. Et puis surtout il se lie d'amitié avec le photographe du journal, personnage sympathique qui aurait bien 30 kilos à perdre et qui conduit une Fiat 500, forcément rikiki, une auto qui aura toute son importance pour une des séquences hilarantes du film où pour peu qu'on soit de bonne humeur, on a l'occasion de se taper sur les cuisses. Alcool frelaté, voire expérimental, beuverie, musique caliente, crasse et luxe, course-poursuite, combat de coq et j'en passe. On secoue tous ces ingrédients et on obtient un film qui file vite avec les personnages moteurs qui frisent le coma éthylique lors de quelques scènes bien ficelées. On retrouve le Johnny Depp de Las Vegas Parano quelques kilos en plus tout de même et un physique qui lors de la première séquence pourra surprendre les nombreuses filles venues voir le beau Johnny. Il y a bien une histoire qui se déroule avec des noceurs et des pourris et le journaliste téméraire qui doit vaguement choisir entre se taire et sortir une histoire de magouille, mais là n'est pas l'essentiel, il n'y a pas grand suspense. L'essentiel est ailleurs, dans l'atmosphère du Puerto Rico des années 60, finement mise en lumière dans les dialogues aussi, qui peuvent être savoureux, et puis dans les scènes de burlesque bien orchestrées. On ne peut que recommander ce Rome Express aux amateurs de comédie délirante avec ce petit soupçon d'aventure éthylique. Voilà, et là aussi, ça passe à peu près partout, en VF ou en VO, selon ce que vous souhaitez.
Et on va maintenant enchaîner sur le blind test. Alors, je précise quand même que, comme tout le monde connaît les Sleepy Hollow, les Las Vegas Parano, les Pirates des Caraïbes, j'ai préféré m'attacher à une partie de sa filmographie qu'on ne connaît pas forcément. Donc, on va commencer tout de suite. Et là, c'est le tout premier film qu'il a fait.
Thank you.
Je sais pas, c'est une musique de Carpenter ou...
Oui.
Ah,
non,
raté. Non, ah non. C'est pas en tout cas 21 Jump Street. Je pensais qu'il avait commencé comme ça, mais non.
Oui, non, non, autant pour moi, c'est une musique d'un film de Wes Craven.
Bah oui. Ah oui, c'est son premier, mais je sais pas comment il s'appelle.
Oui, c'était Freddy et les griffes de la nuit.
Ah.
Et c'était la scène d'ouverture.
Vous êtes donc Benjamin Parker.
Oui, je suis. Où est ma femme?
Elle a bu une fiole de poison d'arsenic vendue par l'apothicaire du coin de la rue. J'ai essayé de l'en empêcher, mais elle a rien voulu savoir. Et il retient votre fille.
Lui? Le juge Durbin?
Il l'a adoptée comme sa propre fille.
Cela faisait 15 années que je vivais l'enfer, injustement condamné aux travaux forcés. 15 années que je vivais dans l'espoir de retrouver mon foyer, ma femme et mon enfant.
Ouais, on peut guère dire que le temps a été particulièrement tendre avec vous, Monsieur Parker.
Non, pas Parker. Cet homme est mort. C'est Todd maintenant. Sweeney Todd. Et il s'est promis d'obtenir vengeance.
Celui-là était facile.
Oui, ça c'est facile. Sweeney Todd, oui.
Voilà, c'est bon, un des films de Tim Burton qui est quand même pas vraiment le plus connu dans sa filmographie, et, puisque ça a la particularité d'être une comédie musicale d'ailleurs.
Mais assez noire.
Oui.
Enfin, moi je l'ai pas vu en
comédie
fait.
Comédie musicale assez gore et assez macabre.
Ils vont venir bientôt, hein? Dans combien de kilomètres ils vont venir, Gilbert?
3 millions, bonhomme.
Toi?
Ouais.
Bon. Gilbert, c'est eux là-bas. Gilbert, regarde, ils arrivent. Regarde. Regarde là-bas. Ouais. Regarde, Gilbert, ils arrivent.
Ouais. C'est un Tim Burton encore, non?
Non, c'est un film où il y a également Leonardo DiCaprio dans son tout premier rôle. Oh. Et donc Johnny Depp. Et c'était Gilbert Grape.
Donc, en silence.
Gilbert Grape. Ou DiCaprio.
Gilbert, Gilbert, il
mental.
Arrive.
D'accord.
Ah. Alors, toi, t'es pas de chez nous, ça c'est sûr.
Je bosse encore dessus, hein. Et c'est quoi votre nom?
Fève.
Ah, c'est un nom rigolo.
Qu'est-ce que tu veux y faire? Mon père était ma boule de fève.
Ouf, il aurait pu être ma boule d'asperge.
Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire?
J'adore la puttanesca, mais je suis sûr qu'un enfant serait pas content d'avoir un sobriquet pareil.
Mon paternel était un type bien, même s'il avait un furieux penchant pour les légumineuses.
Ça arrache.
Tu manges ses cendres.
C'est votre père?
Non, son cendrier. Il adorait fumer. On n'a jamais retrouvé son corps.
Oh, je vois. Il devait avoir si raison.
Alors bon, c'est pas un vrai film,
ah.
c'est un dessin animé, c'est un film d'animation en fait.
Dont il fait la voix.
Exactement, c'est très récent, c'est Rango.
D'accord.
Très bon film d'animation d'ailleurs, où il joue un lézard.
Oui.
Voyez-le si vous n'avez pas
mais
vu.
Mais je crois que j'ai vu la version
il est
française.
Excellent.
Oui, 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 très très... Bah, mais voilà, en version française, moi j'ai vu, donc je pouvais pas identifier.
C'est pas du possible des choses pareilles.
Écartez-vous.
Nos sergents de ville ont fait le tour des tavernes et des plaisantes maisons qui bordent cette charmante rue. Seriez-vous surpris d'apprendre qu'on n'a rien entendu?
On l'a égorgé et pas de trace de sang répandue sur le mur. Le crime a eu lieu ailleurs. Il a plu hier soir, hein? L'étoffe est sèche. On l'a amené ici en fiacre ou autrement. On a dû lui trancher la gorge dans la voiture. Les assassins se sont arrêtés là ensuite.
Alors, tout le monde a trouvé, mais personne ne se souvient du titre,
c'est
apparemment.
C'est des crimes racistes, c'est ça?
Non, pas du tout, non. Ah. Comme disait Bruno, c'est Jack l'Éventreur. C'était From Hell, où il joue... à peu près le même rôle que dans Sleepy Hollow, d'ailleurs, un enquêteur au début du siècle.
D'accord.
Voilà.
Eh bien, bravo. J'en ai trouvé aucun, je crois. C'est ça. Bon, ben voilà, en espérant que les auditeurs aient pu avoir quelques indices.
Et découvrir des films qu'ils ne connaissaient peut-être pas dans la filmographie de Johnny Depp.
Eh oui, mais je suppose que les filles, parce que quand même, il a énormément de succès, ce Johnny Depp, on est d'accord. Donc les filles, je pense, ont plutôt tendance à connaître toute la filmographie de Johnny Depp, non ? C'est pas ça ? Marine ?
C'est pas réducteur, ça ?
Non. Non, je sais pas, c'est plus facile, non ?
Je suis pas d'accord.
Non, mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, pour moi, c'était insoupçonné, hein, tout ce qu'il avait fait. Voilà. Merci beaucoup, Marine, et on reviendra avec un autre blind test, je sais pas, avec un autre séducteur, Georges Clooney.
Cinérama sur Divergence FM.
C'est le moment maintenant de retrouver eh bien, l'interview de Cinérama, une interview qu'on a réalisée eh bien, tous les deux ce dimanche. C'était pendant le Festafilm, donc festival international, il ne faut pas que je l'oublie, du film francophone et lusophone. En revanche, pour clôturer ce festival, il y avait eh bien, une projection de films qui ont été produits, réalisés en Languedoc-Roussillon. Et donc il y avait des réalisateurs et on s'est permis de leur poser quelques petites questions.
Romain Cauchois, 23 ans, réalisateur de Manège.
Je suis Jesus Glazer, le réalisateur de Jules.
Elle s'appelle Julie. Elle est plus jeune que moi, mais je m'en fous. On est bien tous les deux.
Et moi, c'est Pascal Michel, j'ai réalisé Le Dingue.
Je vous rappelle que 24% des demandeurs d'emploi sont d'origine étrangère.
Pensez-vous que ce discours soit à l'origine des menaces que vous avez reçues ?
François Gaillard, Die Die My Darling.
Alors, vous avez pour point commun d'être quatre réalisateurs de Montpellier, ou au moins de la région Languedoc-Roussillon. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement pourquoi faire des films ici et pas aller ailleurs, où c'est plus simple peut-être de faire des films ?
Parce qu'on habite ici et qu'on pense que faire du cinéma et de l'audiovisuel en province, c'est une bonne chose et qu'il ne faut pas forcément toujours aller à Paris pour tourner des films.
Pour ma part, c'est juste que je me suis retrouvé à faire mes études ici et donc j'ai commencé à réaliser des films ici. Donc c'est pas, l'idée, c'était pas trop de me dire je vais faire un film parce que je suis à Montpellier. Enfin, c'était, voilà, je suis de Montpellier, c'est comme ça.
Moi, pour Montpellier, bah, c'est une ville déjà très cinématographique et assez belle. Et bon, après, il y a aussi une question, ça serait pas mal de délocaliser les trucs de Paris, que tout ne se passe pas à Paris. Après, il y a aussi une question de moyens, quoi. Si on veut monter à Paris, il faut avoir les moyens. Donc, bah ouais, moi, ça s'est tourné sur Montpellier parce qu'on a fait des repérages, je trouvais les lieux qui m'allaient et ça rentrait dans mes cordes, donc Montpellier.
Pour ma part, ça fait pas mal de temps que je suis ici et je pense également qu'on peut faire des films ailleurs qu'à Paris. Donc, je pense qu'ici, il y a des lieux qui sont plus accessibles, des décors. J'en vois pas beaucoup, mais des décors extérieurs qui, je sais, sont quand même très jolis. Donc, effectivement, je pense qu'il y a vraiment un potentiel dans la région.
Au niveau financier, comment est-ce que vous êtes soutenu ? On a l'impression que l'aspect associatif est quand même assez important. Est-ce que sinon, il y a d'autres choses qui rentrent en compte ?
En termes de budget, pour ma part, on a réussi à décrocher quelques subventions qui nous ont permis de payer pas mal de prestations et puis de matériel. Et après, ben voilà, le bénévolat, ça, c'est un passage obligé. Et puis dans des projets comme ça qui sont associatifs essentiellement, on ne peut pas forcément rémunérer les gens. Donc on mise sur les compétences et la bonne volonté des copains, quoi.
Petit cas particulier parce que votre film a été tourné en Super 16, donc ça engage d'autres moyens. Le budget, c'était combien ?
Je ne saurais pas vous dire exactement de combien il était. Parce qu'il y a pas mal de frais que je prends pas en compte, comme les déplacements et tous ces frais-là qu'on oublie, comme les factures de téléphone et tout ça. Et mine de rien, ça compte parce que ça chiffre assez gros et assez rapidement. Donc, peut-être grosso modo, j'ai envie de dire entre 8 et 10 000 euros, je pense. Et il y a surtout la post-production qui coûte très très cher en studio et en laboratoire. Donc ça coûte pas mal d'argent. Et puis les subventions des collectivités territoriales de la région nous ont quand même pas mal aidés pour pallier à ce problème qui est de financer un film en péloche, quoi. Voilà.
Je sens sa respiration. J'ai envie de l'embrasser. De lui dire que je l'aime. J'aimerais que ses lèvres se posent sur les miennes. Mais pour ma part, donc, c'est film en numérique et il se trouve que pour le cas de Jules, c'était quand même un film un peu de dernière minute qui a été comme ça inspiré à la dernière minute. Au niveau du budget, c'est en dessous de 1000 euros et c'était vraiment, pour le coup, là, c'était vraiment un tournage petit comité où on était quatre. Et voilà, donc le budget, c'est pas crête, quoi.
Et mis à part ce film-là ?
Mais ça se passe avec un associatif, voilà. Et on sert des associations pour faire passer, voilà, pour que ça fonctionne comme ça. Et après c'est vrai que c'est beaucoup, oui, c'est du bénévolat, beaucoup d'aide à droite à gauche. Ça fonctionne un peu comme ça, là, pour le coup. Pour ce film, c'est le bon exemple du film qui a marché un peu, mais qui est parti de pas grand-chose, quoi, vraiment pas grand-chose.
Oui, tu parlais tout à l'heure du milieu associatif, donc c'est vrai que... Enfin, le milieu associatif, on est pas mal, dans notre cas avec Romain et Jésus, je crois, on sort de nos études, on sait ce qu'on veut faire, on rêve de le faire, faire des films, quoi. Et du coup, on connaît quelques personnes dans notre cas qui veulent aussi être acteurs, actrices, cadreurs ou des trucs comme ça. Et en fait, sans forcément avoir de moyens, pour le dingue, moi en tout, j'ai déboursé de ma poche 300, 400 euros vraiment pour le film. Après, je me suis acheté un autre truc aussi pour le film, mais le budget du film, c'est de 300, 400 euros. Et essentiellement des déplacements, mais après c'est surtout beaucoup d'entraide, je pense que c'est surtout ça, quoi. C'est des gens qui viennent t'aider parce qu'ils accrochent au projet, quoi. Et ça c'est cool, c'est l'esprit court métrage.
Pour ma part c'est un petit peu plus complexe, c'est le fruit d'une fusion entre mon association Schools Out, qui existe depuis quelques années à Montpellier, on avait déjà fait quelques films avant, et l'éditeur DVD d'un de nos précédents films, La Caria. L'éditeur DVD s'appelle Le Chat qui fume, en fait, qui s'est installé sur Montpellier, et c'est eux qui ont accepté de me financer, entre guillemets, cette récréation qu'on s'est autorisé après le tournage du dernier long, en fait, qu'on a fait ensemble. Donc le budget n'est pas élevé du tout, hein, c'est 1200 euros au total. Mais c'est aussi grâce à toute l'équipe de Schools Out qui a... Enfin, c'est pareil, c'est le bénévolat, c'est des potes qui ont envie de percer aussi dans différents milieux, directeur de la photo, maquilleur, et ils ont tous mis la main à la pâte. Donc, j'en profite pour les remercier publiquement parce qu'ils ont vraiment été cool. Et Le Chat qui fume, de me laisser gaspiller ses sous.
Pour votre film, il passe dans de certains festivals et donc vous récupérez quand même un droit de diffusion et ça permet de payer la production, c'est pas ça ?
Oui, les screening fees.
C'est pas tout à fait ça. Enfin oui, on est payé, par exemple, on touche de l'argent lorsque certains festivals récupèrent le film. Comme hier, c'était le cas de Panique Cinéma à Paris. Je leur fais de la pub, ils ont été sympas. Donc, ce film-là, par exemple, c'est un bonus. C'est un bonus DVD du long qu'on a tourné précédemment, qui s'appelle Lascares. Donc, plus on met de bonus auprès du distributeur, plus forcément, il va un petit peu allonger de l'argent. Donc, c'était une façon de dire, la récréation, on la case en bonus, comme ça, ça permet d'élever un petit peu les prix de vente. On a vendu le film à l'Allemagne pour le moment, l'Autriche et la Suisse, puis on espère emmerder plein de pays avec.
Justement, c'est cette question après de la visibilité, parce qu'on est là donc à un festival de cinéma, lusophone, francophone, donc ils intègrent une partie filmée en Languedoc-Roussillon. Vous, quelle carrière ont vos films finalement ?
À part Internet.
Avant de mettre ce film sur Internet, chose que je ne suis pas sûr de faire, je mise sur la carrière festivalière du film. Donc on balance un maximum de festivals, essentiellement en France, parce que pour les inscriptions à l'étranger dans les compétitions internationales, ça implique pas mal d'autres démarches un peu compliquées. J'ai pas de distributeur, donc je suis tout seul à essayer de faire la vie de mon film. Donc je vais privilégier la France comme terrain de diffusion de mon film dans les festivals. Et après, les festivals, ça sert aussi à rencontrer des professionnels. Il y a le marché du film aussi qui est là pour ça, pour créer un échange entre les différents réalisateurs, producteurs, distributeurs, etc. Donc voilà, moi, en ce qui concerne Manège, c'est cette carrière-là que j'ai envie de lui attribuer, quoi.
Pour Jules, de son côté, c'est pareil, je l'envoie en festival. Après, Jules est sur Internet. Parce que moi, de mon côté, je me suis dit aussi, le but, c'était qu'il soit vu par le maximum de gens. Et c'était aussi, le film, je le vois comme œuvre, mais aussi, pour moi, comme un outil. Et c'est vrai que ça, mon but, c'est qu'il soit vu le maximum. Et aussi, ça me permet de continuer
Et voilà, donc en festival, et c'est vrai, il est sur Internet. Mais d'ailleurs, enfin, ça n'empêche, ça reste sur Internet, mais il participe à un concours, là, sur Internet. Je le dis au passage, sur Dailymotion, donc sur un concours, le jour à thème, le jour où tout va basculer, et tout a basculé, et on peut voter. Donc voilà, pour le coup, au passage, on peut faire ça aussi. Mais c'est vrai, il y a quand même ce questionnement à chaque fois de... le rôle que va jouer Internet quoi, là-dedans. Est-ce que on le cache et on le garde juste uniquement pour les festivals? Le prochain, je sors un prochain film et celui-là, je le mettrai pas sur Internet. Après, c'est un choix aussi de la création, quoi, de ce qu'on a fait. Est-ce qu'on veut qu'il soit complètement vu ou est-ce que justement on veut qu'il soit pas vu parce qu'on sait qu'il va passer en festival et que là, par exemple, c'est un peu la chute. Le film, c'est pas intéressant si on l'a vu avant, je trouve. Mais là, j'ai fait le choix de qu'on le voit un maximum, c'est tout.
Il y a aussi les conditions de projection. C'est-à-dire qu'en festival, ça sera vraiment dans des conditions optimales.
Bah oui, les conditions de projection, carrément. Quoi. Voir le film sur grand écran, je pense que c'est bien mieux que le voir sur son écran d'ordinateur. Quoi. Donc, avec un son aussi, ça c'est super important. Donc je pense, moi ça me faisait rêver de savoir qu'il allait passer là, quoi, sans travailler. Je trouve ça génial. Après, pareil que Jésus, moi j'ai envie qu'il soit vu par un maximum de monde. Mais aussi, du coup, dans des bonnes conditions. Donc les festivals, c'est un bon truc pour ça. Et aussi, un truc, c'est que les festivals, des fois, ils veulent avoir une sorte d'exclusivité. C'est qu'il ne faut pas que le film soit sur Internet pour qu'il soit accepté. Donc moi, le dingue, non, pour l'instant, je donne le lien en privé aux gens qui veulent le voir, mais je ne le publie pas officiellement.
Pareil, c'est encore un petit peu le bordel de notre côté. Mais c'est, nous, comme je disais, donc il sera en bonus DVD du long. Et on va le mettre en ligne très bientôt, via Le Chat qui fume. En fait, c'est peut-être ce que je conseillerais enfin, à mes camarades réalisateurs ici. C'est qu'en fait, Le Chat qui fume a une idée de mise en ligne et de faire une demande de don pour financer le prochain projet. Donc, vu que je trouve qu'à tous les trois, vos films ont vraiment de la gueule, je vous conseillerais peut-être de faire ça. Ça pourrait toujours, toujours vous lancer et puis ça donnerait vraiment une fonction de lancement de projet à vos films. Pardon, je me répète, mais...
Voilà, c'était donc un petit point avec les réalisateurs du Cru, Marine.
Voilà, en espérant qu'ils continueront et qu'ils deviendront grands par la suite. Alors, maintenant, on va écouter une petite musique. C'est un morceau, justement, d'un des courts-métrages qui était présenté, Die Die My Darling. Et je remercie d'ailleurs le réalisateur François Gaillard qui m'a permis d'utiliser ce son.
We rule the night, we rule the fight, we are a looking good, we are a bloody fool. We are the judge.
Ça sent un peu la sueur, mais finalement, dans le film, hein, ça introduit une séquence où il y a des... Donc,
ça sent surtout le sang.
Des jeunes filles à moitié dénudées qui dansent. Voilà, ouais.
Voilà, donc c'était extrait du court-métrage Die Die My Darling.
Cinérama sur Divergence FM.
Et on continue maintenant avec Footnote, un film israélien qui a reçu le prix du scénario à Cannes cette année. Alors footnote, c'est le terme anglais pour désigner les notes de bas de page écrites dans les livres pour le chercheur israélien Eliezer Skolnick. Ce terme désigne également sa seule reconnaissance à laquelle il a eu droit. Un éminent philologue aurait cité son nom dans une note de bas de page, ce qui représente depuis sa seule fierté professionnelle. Hormis ce mince hommage, Skolnick n'est guère reconnu par ses pairs, malgré ses recherches sur le Talmud qui l'ont occupé toute sa vie durant. Il n'a jamais réussi à obtenir le Grand Prix d'Israël qui récompense les plus éminents chercheurs. Il est vrai que Skolnick n'est guère avenant, mutique et méprisant, il inspire moins la sympathie que son fils, lui aussi chercheur, jusqu'au jour où il apprend qu'il va enfin se voir décerner le prix tant espéré. Mais son fils, qui subit difficilement cette rivalité entre lui et son père, vieille de plusieurs années, découvre qu'en réalité tout provient d'un malentendu et que c'est à lui-même qu'incombe cette récompense.
איך זה באמת שבמשפחה אחת יש שני אנשים שעוסקים בתחום שהוא כל כך צר?
עשרים שנה מדלגים על אבא שלי, עשרים שנה.
שמחה לבשר לך שהוחלט השנה להעניק לך את פרס ישראל. מזל טוב.
מזל טוב, oui. ça, j'ai au moins compris ça.
Donc réalisé sur le ton de la comédie, sans être forcément très drôle, Footnote rappelle surtout la tragédie antique, avec pour toile de fond une communauté très particulière, celle des chercheurs universitaires, qui obéit à une éthique et à une hiérarchie sans pitié sur fond de rivalité père-fils et de dilemme cornélien. Le drame familial trouve ici une nouvelle dimension, campée dans un univers qui nous est pour la plupart hermétique, et qui parvient tout de même à prendre du relief, même sans avoir de notion de judaïcité. La scène d'ouverture est à la hauteur de cette saveur douce amère. Une phrase de Billy Wilder introduit le film, je ne me retiens pas de vous la citer. « Les honneurs et les prix, c'est comme les hémorroïdes, n'importe quel trou du cul finit par en avoir. » Suite à cette délicate citation, survient une scène beaucoup plus pesante où la caméra, figée sur le visage renfrogné du père, le fixe pendant de longues minutes tandis qu'il écoute avec agacement un discours de son fils. Dans cet univers 100% masculin, la composition des acteurs est primordiale pour donner une individualité au personnage et s'avère largement à la hauteur, avec en particulier le rôle du père misanthrope qui s'avère être le pire personnage cinématographique depuis Tati Daniel, sans pour autant basculer dans la caricature. Son fils est quant à lui joué par Lior Ashkenazi, l'un des comédiens majeurs du moment puisqu'il a été de tous les succès israéliens, entre autres Tu marcheras sur l'eau et The Bubble. Le seul souci étant que le film s'avère excessivement bavard, soutenu par une petite musique sautillante mais vaguement saoulante, qui se voudrait appuyer une mise en scène inventive mais en réalité loin d'être révolutionnaire. Malgré un palmarès très consensuel cette année, le prix du scénario remporté au Festival de Cannes par Footnote est quand même amplement mérité, au vu de son intrigue audacieuse ancrée dans l'univers impitoyable des talmudistes.
Et ce Footnote est uniquement projeté au cinéma Diagonal.
Oui.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Le premier film de Mathieu Demy, fils de Jacques, et d'Agnès Varda baigne résolument dans l'univers du cinéma dans lequel il a toujours grandi. Il signe avec Americano un road movie mélancolique ascendant lunaire. Martin vit à Paris avec l'air, on sent bien que quelque chose bat de l'aile. Jusque-là, on est bien dans un film français. Puis patatras, il apprend la mort de sa mère restée à Los Angeles. Une mère dont on devine qu'il ne l'a pas beaucoup vue ces derniers temps. Il n'empêche, il doit accomplir le voyage pour les formalités d'usage.
Mais écoute, il faut que tu le vendes cet appartement. Et comme tu es dans le métier, mais ça sera pas bien difficile pour toi.
C'est pas du tout le même marché.
Bah si, il doit y avoir un correspondant dans ta boîte là-bas.
Mais j'aime pas prendre l'avion, tu sais.
Ah, fais pas l'enfant, t'as un passeport américain. T'as même pas besoin de tampon.
Je suis pas américain.
Oh, mais tu arrêtes ton boudin, hein, dis donc, hein. C'est ta mère, hein. C'est pas la mienne. Non. Moi, je veux bien t'aider, mais je ne peux pas faire les formalités à ta place. Tu es son fils. Il faut que tu ailles là-bas, il y a plein de trucs à signer. Et puis, rapatrier le corps, tu sais. Elle voulait se faire enterrer en Vendée, figure-toi.
On l'entend ici, la place du son confine à l'intime. Le père, Jean-Pierre Mocky, hein, qui est réalisateur dans la vie, comme l'était le père de Mathieu Demy, et le fils discutent dans la cuisine avec cette viande qui mijote. Ce qu'on comprend ici, c'est que Martin ne se sent pas américain parce qu'il n'y a vécu qu'une partie de son enfance, qu'il a été finalement séparé de sa mère et est revenu en France en laissant une partie de son histoire aux États-Unis. Et c'est cela qu'il doit retrouver. Alors très vite, on aperçoit des flashbacks de son enfance avec un Mathieu Demy tout jeune. Il s'agit d'extraits du documentaire sorti en 82 d'Agnès Varda, donc sa mère, documenteur, qui raconte précisément comment une mère élève son fils à Los Angeles alors qu'ils ont été abandonnés par le père. Afin que ces flashbacks ne paraissent pas du vieux Super 8 déglingué, Demy a tourné Americano en Super 16 et non en numérique ou en 35 mm. C'est donc un grain particulier qui occupe l'écran. Et on sent bien arriver le road movie quand il est accueilli à l'aéroport de Los Angeles par la grande amie de sa mère, interprétée encore là par une fille du cinéma. Décidément, il s'agit de Géraldine Chaplin.
C'est terrible. C'est terrible.
Je sais, Linda.
Je suis tellement désolée. You know, I was so close to your mother that... Pardon. Nous étions si proches.
Je comprends, Linda. Je comprends l'anglais aussi.
On va chercher tes bagages.
J'ai pas de bagages.
T'as pas de bagages? Pauvre petit bonhomme sans bagage. Oh my God, tu lui ressembles tellement. Emily.
Je ressemble pas.
Et non, il ne lui ressemble pas. Alors on entend une Géraldine Chaplin excentrique et qui roule en Ford Mustang, semblable à celle de Steve McQueen. Donc on est bien à Hollywood et on continue les références au cinéma. Alors Mathieu Demy ne s'embarrasse pas de vieux souvenirs, même si quelques-uns refont surface quand il redécouvre le voisinage et la trace d'une fille, Lola, une voisine qu'a tant aimé sa mère. Alors ce prénom, Lola, fait encore référence à un film de son père, cette fois-ci, et une danseuse de cabaret à Nantes dans les années 60 nous renvoie cette fois-ci à Tijuana. Martin est perdu, Martin va rouler, chercher pour comprendre son passé, ce qu'il est devenu, et seulement après ce parcours, il pourra retrouver les siens. Alors ce premier film de Mathieu Demy est prometteur hein, par son ambiance, le choix de la pellicule, ce grain particulier donc du Super 16, la musique qui est une réorchestration de la musique du documentaire de sa mère, et on peut aussi parler de la plastique quand même de Salma Hayek qui joue la stripteaseuse. Le tout est un peu mélancolique sûrement, mais le sujet de l'enfance qu'on se réapproprie est difficilement transposable dans une comédie, et surtout avec Mathieu Demy. Alors c'est un film plutôt confiné dans les petites salles, hein. C'est le cas en tout cas au cinéma Diagonale, puisqu'il est dans la dernière salle, la toute petite, et qu'il y reste encore une semaine, j'ai l'impression. Voilà, donc c'est une ambiance un peu particulière que ce Americano de Mathieu Demy.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
Eh bien, le moment donc de l'agenda que vous attendez tous, et on commence avec le cinéma Utopia qui propose à 20h la projection du film Horizon alimentaire de Damien Lagrange, suivi d'une rencontre avec des porteurs d'initiatives décrites dans le film et des participants du forum. Demain, jeudi, le cinéma Diagonale, en partenariat avec Languedoc-Roussillon Cinéma, propose à 13h45 la projection du film Coup d'éclat de José Alcala. La séance sera présentée par Karim Giatti, le directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma. Coup d'éclat est déjà sorti, je crois, il y a un an.
Ouais. Toujours demain et toujours au Diagonale, à 20h, la projection du film Territoire perdu de Pierre-Yves Vanderweerd. Et cette séance sera suivie d'un débat avec le réalisateur. Sinon, au cinéma Nestor Burma, à 20h45, vous aurez droit à la projection du film Les Noces éphémères de Reza Sharkanian en présence du réalisateur.
Et puis, bien, toujours jeudi, hein, décidément, on a le choix, ce jeudi, avec le ciné-club Jean Vigo qui propose la projection débat autour du film La Clepsydre de Vossier G. Haas. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce véritablement et je ne connais pas ce film, donc ce serait une bonne idée d'aller voir ce ciné-club. Et c'est au centre Rabelais et c'est à 20h. Et puis sinon, l'association Ciné C'est Toi propose à 20h30 au cinéma Comédia la projection débat autour du film Cérémonie secrète de Joseph Losey. Et je crois que c'est une des dernières séances de l'année, donc il y aura un petit pot qui vous sera offert à 7.
Toujours vendredi à Ganges cette fois, le cinéma Arc-en-Ciel propose à 20h30 la projection du film Viva Mexico de Nicolas Defossé, suivi d'un débat avec le réalisateur, et on en avait parlé d'ailleurs...
Eh bien, dans une précédente émission, et vous pouvez effectivement rechercher le podcast de cette émission sur www.divergence-fm.org.
Le ciné-club Biterrois à Béziers donc propose à 20h15, toujours vendredi, et samedi à 16h30 au cinéma Mon Ciné, une projection débat autour du film Soul Kitchen de Fatih Akin.
Plutôt bon film, effectivement. Là, c'est assez compliqué. Ce sera le 12, c'est État des lieux, présentation du projet de fiction de long métrage de Nora Martirosian, par la réalisatrice et la co-scénariste. C'est à 18h30 au Centre Rabelais, l'entrée est libre. Donc c'est une tentative d'écriture par l'image et le texte d'un projet qui prend place dans un territoire particulier, le Haut-Karabakh. Comment faire émerger une fiction dans un tel contexte sans que paysages et personnages réels ne deviennent de simples décors? C'est la question qui est posée. C'est une réflexion à haute voix sur ce projet d'écriture. Et on le sent bien, c'est organisé par l'École supérieure des Beaux-Arts de Montpellier.
Le 13 décembre, au cinéma Diagonale, il aura une projection à 20h en partenariat avec Soramps du film Une bouteille à la mer de Thierry Binisty. La séance sera suivie d'un débat avec le réalisateur et Valérie Zenati, auteur du roman.
Et puis le 13 toujours, c'est le cinéma Utopia qui propose à 20h la projection du film Mind Bomb de Christophe Montaussieu. Et c'est suivi d'une rencontre avec des responsables locaux et nationaux de Greenpeace, parce que ce documentaire revient sur les origines de cette ONG maintenant quasiment indispensable.
Toujours le même jour à Pézenas cette fois, le ciné-club Jean Renoir propose la présentation et la projection du film Le Guépard de Luchino Visconti à 19h au cinéma Molière. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, ce film.
C'est vrai.
Et à Nîmes, le cinéma Sémaphore propose à 20h30 la projection du film Toast de S.J. Clarkson, suivi de la présentation du 15e festival Écran Britannique.
Voilà, qui se déroulera, je crois, fin février. Et puis, ne ratons pas le 13 toujours, donc ce sera mardi prochain, c'est l'avant-première de Mission Impossible, Protocole Fantôme, Esto Gaumont Multiplex à 20h. Et en tout cas, moi j'y serai, je pense. Et puis, rappelons, toujours à l'Utopia, les films d'Onoma sont projetés, Drive, et maintenant On va où, Gig, L'exercice de l'État, très bon film, La source des femmes, que tu as peu apprécié, Marine, Le cochon de Gaza, absolument hilarant, Le Gruffalo, Les géants, Les marches du pouvoir, Police, qui continue très très bien sa carrière, Eddie Artist, qui marche un peu moins bien, je crois, mais qui marche quand même pas mal, et tout ça, c'est à l'Utopia.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Ainsi s'achève Cinérama. Merci Marine, on
mais
se retrouve la semaine prochaine.
Merci Vincent, oui, la semaine prochaine. On ne sait pas du tout ce qu'on vous proposera, mais bon, on verra ça. Et pour l'heure, c'est 24 notes secondes et ça sera consacré à la musique de 2001, Odyssée de l'espace.
Grand film et grande musique. Merci à Bruno, à la technique, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.